Bonjour Annette. Donc, les petites taches sur mon crâne, chère Annette, que tu vois en grand nombre, c'est de la kératose, c'est pas du cancer. Donc, tous les endroits où il y avait des cheveux, il y a des petits trous, il y a des cheveux qui devraient repousser, c'est de la kératine, bien sûr. Et quand la kératine se nécrose, c'est de la kératose. Les taches de cancer sont très rares sur ma peau, mais elles sont parfois dangereuses. Je les sens quand le soleil est très fort. Elles me piquent là dans les cheveux, sur les tempes et sur les oreilles. Et ce qui est le plus visible, qui n'est pas très beau, c'est en dessous de ces taches, sur le capot de ma voiture. Que Dieu te bénisse. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Pour l'instant, je ne vois que Annette en bas à gauche et au-dessus à droite. Alors je regarde au-dessus, en bas. Voilà, je vois ma chère Annette en double, sans avoir bu de l'alcool. Que peut-il se passer si je me laisse aller dans mon péché en tant que chrétien, si je décline tout intérêt pour Dieu pendant 2 jours, 15 jours, 5 ans, 20 ans, alors que j'ai été sauvé, que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Sachez bien que dans la deuxième à Timothée, Paul dit que même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Renier Christ, c'est autre chose, c'est un renégat. Il vend ses frères. À l'époque de Néron, par exemple, il les vendait au pouvoir romain, ou à l'époque de Hitler, à la Gestapo, etc. Bonjour Jenny, bonjour Françoise. Donc, le renégat, renier, c'est pas la même chose. C'est vraiment comme Judas, vouloir détruire Christ et son corps, son Église. Mais pour ce qui est de l'infidélité, nous sommes parfois très forts. Nous avons tous nos moments d'infidélité envers le Seigneur. Et nous nous comportons parfois presque ou pire que des incroyants. L'intérêt que je peux porter à Christ, qui était charnel, qui était humain, qui était sentimental, finit par s'éroder. Et l'intérêt doit être spirituel. L'intérêt doit être spirituel et cet amour doit être plus fort que mon amour à moi. C'est pour ça que dans Romains 5:5, c'est l'amour pour Dieu était répandu dans nos cœurs en abondance par le Saint-Esprit. Cet amour n'est pas humain. Cet amour n'est pas humain. Et l'amour que Jésus attend de nous n'est pas de la peccadie. Ce n'est pas de la peccadie, chers amis. Ce n'est pas un petit amour. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, le sentiment, vous le séparez en deux, du verbe sentir, du verbe mentir, le sentiment. Le ressentiment, eh bien, c'est la même chose, du verbe ressentir et du verbe mentir. Séparez-les, le ressenti, espace, ment. On n'a pas à baser notre vie sur l'esprit charnel, l'esprit de l'humain, il arrivera à rien pour aimer Dieu. Ça durera pas. Ça durera pas. Dans Jean 14, verset 23, à quoi teste-t-on quelqu'un pour savoir s'il aime vraiment Dieu, s'il a une conduite spirituelle, s'il est dans le don de l'amour spirituel, ou s'il se dit chrétien par la chair? Eh bien, écoutez, c'est Jean 14, 33. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Saint-Esprit me rappelle tout ce que Jésus a dit et tout m'enseigner, c'est en ouvrant ma Bible. Parce que ma mémoire n'est pas assez fiable. On va apprendre des versets par cœur, mais on ne va pas connaître toute la Bible. Donc, celui qui m'aime gardera ma parole, c'est le test de la personne qui est fondée spirituellement en Christ. Et dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, je vous demande de ne pas vivre selon l'humain, la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. C'est clair. Et si je prends encore un autre texte, 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit de Jésus qu'il est hors de Dieu, qu'il est sans Dieu, anathème. Qu'il est tout contre lui, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas fils de Dieu. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, à la fin de ce verset 3, 1 Corinthiens 12, verset 3, nous précise bien que nous ne sommes pas autorisés charnellement à confesser le nom de Jésus Seigneur quand nous vivons par la chair. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour reconnaître la royauté, la seigneurie de Christ et la vivre, c'est-à-dire obéir. Si nous prononçons des mots par la chair et que, en fin de compte, notre vie est dans le mensonge, et ne correspond pas à une obéissance réelle à Christ, eh bien, ne nous autorisons surtout pas à dire que Jésus est notre Seigneur, parce que c'est un mensonge. Et dans l'Apocalypse, il est mis clairement que, à la fin des temps, quand Jésus reviendra, ben, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas le dire pour n'importe qui, il va le dire pour ceux qui ont menti. Pour ceux qui ont menti. Et il y a clairement quelque chose de très important dans les paroles de Jésus. Apocalypse 22, 15, dehors les chiens, les magiciens et débauchés, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bon, les chiens, c'est-à-dire les ennemis. De la foi, les magiciens, on comprend, tout ce qui est occulte, les débauchés, ben tout, Azélias, c'est tous les déréglés qui veulent vivre non pas saintement, de manière sainte, les meurtriers, les idolâtres, et dans les idolâtres, il y a bien sûr ceux de l'argent, du sexe, il y a aussi les statues, évidemment. Mais on peut être idolâtre d'un président de la République ou d'un roi, etc. Hein, le mettre au-delà de Dieu. Hein. C'est déjà arrivé chez les chrétiens, hein, n'est-ce pas? En France, avec Louis XIV, c'est déjà arrivé autre part. Avec le tsar en Russie, etc. Les rois d'Espagne. Et Jésus dit, quiconque aime et pratique le mensonge. Eraus, dehors. Peyton. Out. Clairement, on ne peut pas se payer du bon linge sur terre en disant aimer Dieu. Il faut être, il faut avoir de la rigueur, il faut être appliqué à obéir au Seigneur. Donc, je ne peux pas décliner la présence de Dieu et l'honneur que je lui dois. Je ne peux pas décliner la gloire de la croix et ne pas lui rendre honneur. Je ne peux pas décliner de la sainteté du Saint-Esprit et vivre comme s'il n'était pas en moi. Clairement, ça s'est produit dès le début du christianisme. Éphésiens 5, 14, c'est toujours valable, n'est-ce pas? Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, le Christ est lumière. Il éclaire le croyant. Et ben, voilà que déjà, dans la première église, vers les années 50, là, il y a déjà des chrétiens qui dorment, comme si Christ n'était plus lumière. Ils vivent comme dans les ténèbres. Alors, Paul, bien sûr, emploie des mots pour dire tout ça. Je lis Éphésiens chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, donc à Zelga, des règlements, ni aucune impudicité, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. » Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Si Paul dit tout ça, c'est que ça existait dans l'Église. Hein. Car sachez-le, bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Ben oui. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Fils de rébellion, ce sont des personnes dans l'Église qui, finalement, outrage le nom du Seigneur et la grâce, et dérègle la vie de l'Église, se livrer dans le champ. C'est les fils du malin, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 13. Il y a les fils de Dieu et les fils du malin, dans l'explication de la seconde parabole, le blé livré. Alors, nous y voilà, nous sommes dans les années 50, 55, et les apôtres n'ont en forte affaire avec l'être humain, tout comme aujourd'hui, n'est-ce pas? N'ayez donc peur que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Christ. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, engagez-vous à suivre Jésus-Christ dans sa parole et dans la vie du Saint-Esprit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice, donc sainteté et obéissance, et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc il y a une activité de l'esprit, de l'intelligence, pour pouvoir examiner. Le libre examen des protestants et des évangéliques, c'est ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous voyez à quel point Paul, déjà, a des problèmes avec ses oignes. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Mais oui, bien sûr, le jour que le Seigneur le veut, il dévoile tout. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire vivez sans réflexion. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pourquoi faire? Pour le mettre en pratique. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Magnifique. Donc, ici, nous voyons que Paul a déjà du fil à retordre et que, oui, un chrétien peut se désintéresser totalement de la vérité de la lumière de Christ. Mais c'est pas pour ça qu'il doit y rester. Et la parole de Dieu, comme vous le voyez ici, elle est là pour nous corriger, nous redresser, nous exhorter. Jacques 1. Je voudrais aller beaucoup plus loin aujourd'hui, Jacques 1, parce que je pense que j'ai déjà abordé ce sujet. Jacques 1, versets 22 et 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais ça, c'est monstrueux. Je trouve que c'est ici en Occident, à un moment donné, chers amis, nous étions 75 dans la salle de culte. Et je me suis dit, si le Seigneur demain vient et qu'il en prend 10, 12, 15 maximum, et les autres, je leur aurais laissé croire qu'ils étaient en ordre avec Dieu, alors le Seigneur va s'en prendre à moi, parce que je suis un mauvais serviteur, un faux prophète. Alors, dans mon âme et conscience, je me suis dit, je ne bâtis pas une église pour le nombre, pour le succès, je veux bâtir une église sur la parole et avec des fruits. Ça, c'est beaucoup plus exigeant, et oui, oui, oui. Alors, en prêchant de manière plus solennelle, plus, pas emphatique, pas de manière bourgeoise, c'est pas ça, mais plus solennelle, avec la solennité, l'autorité du Seigneur, avec la sainteté du Seigneur, si possible, eh bien, ce qu'il y a, c'est que j'en appelais aux personnes à ne plus se tromper soi-même par de faux raisonnements, mais à découvrir la vérité et la mettre en pratique. Bon, on est tombé à 15, hein. Chers amis, le Seigneur veut des fruits. Et il ne nous a pas demandé d'avoir du succès. Alors, si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc l'Évangile, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Heureux dans son engagement spirituel au service de Christ. Voulez-vous être heureux? Soyez fidèle. Voulez-vous avoir la tranquillité? Soyez infidèle. Ne confondez pas tranquillité, pantoufle, pantouflard et fidélité et bonheur. Bon, premier épître de Pierre, chapitre 4. C'est valable pour moi, hein. Ne croyez pas que je prends ça pour vous. C'est valable pour moi. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc, on voit ici clairement que aujourd'hui, pour celui qui veut vivre l'évangile, il y a un jugement tous les jours. La parole de Dieu lui montre ce qui est bien, ce qui est mal. Le Saint-Esprit le fait rougir de ses défections, de ses lâchetés, de ses mensonges ou des trahisons. Et le Saint-Esprit le ramène à Christ et à la vérité. Donc, le jugement s'exerce sur la maison de Dieu. Pour celui qui aime être jugé par le Seigneur tous les jours, il y a progrès, il y a immortalité, il y a gloire. C'est pour ça que Paul dit dans Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. Que penses-tu au homme? Chapitre 2, verset 3. Que penses-tu au homme, ou femme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, qui font des mauvaises choses, et qui les fait toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Méprises-tu la richesse de la bonté de Dieu, sa patience, sa bienveillance, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, au changement, à la remise en question, par amour de Dieu? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Moi, je pense que réellement, quelqu'un qui a vraiment été appelé par le Seigneur, qui est né de nouveau, quand il pêche, il commence à faire du travail en or à tout bout de champ, il travaille le dimanche, il fait n'importe quoi. Il joue à la bourse ou il regarde de la pornographie en cachette, etc. Tout ça, c'est clairement, Dieu a tout vu. Il voit tout, il verra toujours tout. Eh bien, il y aura un juste jugement. Et c'est pas forcément quand Jésus revient. À un moment donné, le pécheur porte la peine de son péché, comme dit Osée. Le pécheur porte la peine de son péché. Un fardeau s'ajoute sur ses épaules et il finit très, très, très mal. S'il a des frères et des sœurs qui prient pour lui, s'il a vraiment un pasteur qui a la compassion pour lui et qui va tenter de le relever, de sortir des filets du diable, c'est très bien. Et si c'est pas un pasteur, que ce soit deux, trois personnes, par exemple une femme qui s'écroule dans la débauche, la mauvaise conduite, eh bien, c'est que deux, trois sœurs, il a trouvé régulièrement, qu'elle prie à genoux, dans la chambre, dans leur chambre, et sans rien dire. Également trouver avec amour cette personne. Si c'est un homme, c'est la même chose, il faut aller le trouver. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Verset 7. Romains, chapitre 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance à faire bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils cherchent dans leur vie, de tous les jours, l'honneur de Dieu. L'honneur de lui plaire. L'honneur de se présenter propre devant lui. De chercher à se purifier tout le temps pour lui plaire. S'offrir à lui. Et la gloire. Ils cherchent la gloire. Ils cherchent la véritable gloire. C'est-à-dire celle de Dieu. Pas celle de l'humain, pas de l'orgueil, de la vanité humaine. Et ils cherchent l'immortalité, c'est-à-dire à ne plus être soumis au règne de la mort, à la vallée de l'ombre et de la mort. Comme la bonne brebis dans le psaume 23 qui suit son berger à travers la vallée de l'ombre et de la mort qui va vers les verts pâturages, les eaux paisibles. Mais pour celui qui n'obéit pas, pour un chrétien qui n'obéit pas, irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, obéissent au manque de sainteté auquel ils ont pris goût. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Chers amis, nous savons bien que nous avons un grand maître et si nous sommes nés de nouveau, Dieu prendra autorité. Ah, s'il faut nous briser les jambes pour arrêter de courir, quelque part, il le fera. Dans une maison close ou chez la maîtresse ou chez l'amant, oui, il fera quelque chose. Tôt ou tard. Et c'est pas de malédiction, c'est une correction. Et d'autre part, il y a des autres choses qui peuvent arriver. Je joue à la bourse en cachette. J'aime l'argent. Et j'engrange sur des comptes tout ce que je gagne en allant à la loterie nationale et tout ça. Il y a des chrétiens qui jouent au jeu de hasard. Et ils ne s'en vendent pas à l'église. Ils mettent leur petit obol dans le panier à l'église. Comme Ananias et Séphira. Mais est-ce qu'on peut mentir au Saint-Esprit? Acte 5, non, pas du tout. On ne peut pas mentir. Dieu est souverain. Donc, oui, je pense qu'on peut décliner tout intérêt pour la vérité, tout intérêt pour Dieu, mais attention, ce qu'il en coûte, est lourd. Comme m'a dit un jour une chrétienne, j'ai cherché un peu de bonheur, un peu de consolation dans les bras d'un bonhomme. J'ai reçu beaucoup d'affliction. Pasteur, vous aviez raison, c'est fini pour moi. Eh oui. Pourquoi faut-il aller se couler dans le mal pour savoir que le mal est mal? Ça, c'est la grande séduction que Satan a proposée à Adam et Ève. Tu connaîtras le bien, le mal autant que le bien. Mais, chers amis, pour connaître le mal, il n'y a pas besoin d'y aller. Hein. Ce qui est mal est mal. Il suffit d'écouter avant le Dieu et le Saint-Esprit, l'enseignement de Jésus, des apôtres, des prophètes. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Donc sachez bien que quand un troupeau de brebis est ensemble, il arrive un lion, il va hurler. Tellement impressionnant que les brebis vont courir dans tous les sens, et les plus faibles vont se faire manger. Regardez avec les gazelles, les buffles dans la savane, quand vous voyez des films de Nicolas Hulot ou d'autres, hein, le Géo et tout ça, vous voyez bien que c'est la technique, c'est effrayer, ruser, effrayer. Et puis ensuite, attraper les plus faibles, un après l'autre. Il faut rester dans l'Église. Il faut rester uni dans la prière et l'amour, l'intercession, l'adoration et dans la parole. Le diable est dégoûté au possible. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, ça c'est... Le diable ne peut rien s'il n'arrive pas à vous impressionner, si vous êtes fidèle. Il n'a pas tous les droits, le diable. La puissance du Saint-Esprit dans une église, ça existe. Mais il faut que tous les chrétiens se mettent à obéir à Dieu et aimer Christ. Alors la puissance du Saint-Esprit dans l'église. C'est pas parce qu'on dit « nous avons reçu le Saint-Esprit » que l'église va résister aux assauts du malin. Ça, c'est affirmer une vérité théologique. Mais une vérité vécue. Vécue. C'est autre chose. On peut avoir de l'arrogance et de l'audace en proclamant certaines doctrines bibliques, évangéliques, et en ne les vivant pas. Et ça s'appelle « vivre par la chair ». Ça s'appelle l'apostasie aussi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 6. Je commence au verset 5. Le but de ma recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ah, les qualités de la vraie Église dans le Saint-Esprit. Le but de ma recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mes chers amis, quel cadeau quand les Églises vivent cela. Quel cadeau, mais au fruit, comment ? Par l'obéissance. Ce fruit est donné dans la sainte obéissance. Alors, Hébreux 12, verset 12. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ben oui, quand on désobéit à Dieu, qu'on n'a plus d'intérêt réellement pour la personne de Christ, et qu'on s'est habitué à se dire chrétien en portant seulement l'étiquette, on finit par avoir des genoux qui plient, on finit par avoir des mains qui tombent. C'est-à-dire, on n'a plus de force pour mener une vie spirituelle sérieuse, et pour aimer le Seigneur, et pour aimer les autres, et aimer l'Église. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Apollos dit au verset 13, Hébreux 12, 13, « Suivez avec vos pieds des voies droites, c'est l'évangile du Seigneur derrière Jésus, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, nous sommes des boiteux, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » C'est sage, plutôt se raffermisse. On est toujours en train de se raffermir, n'est-ce pas? On devient mou plus vite qu'on se raffermit, mais et clairement, nous pouvons être raffermis. C'est la volonté du Seigneur, c'est son souhait le plus vif, le plus grand. Verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume, aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. L'amertume, toujours, dans la bouche d'un chrétien, c'est quand il ne se repose plus sur Christ. Il est déjà en train de regarder tous les autres, il regarde tous les défauts, il se voit déjà dégringoler, ou il ne l'admet pas, mais il ne se repose pas sur le Seigneur, il ne regarde plus au Seigneur. Il n'est plus la parole de Dieu, ou il la lit de travers. Il choisit ce qui l'arrange, et ce qui le dérange, il ne veut pas le voir. Alors, quand quelqu'un se prive de la gloire de Dieu, il peut devenir audacieux ou arrogant dans une église, et vouloir la détruire, ou détruire le pasteur, ou détruire tel ou tel, ou séduire tel ou tel. La brutalité et l'ignorance, l'arrogance, l'audace peuvent exister chez certains individus qui ont été baptisés, qui ont confessé Jésus. C'est assez pénible, mais c'est comme ça. Je vous mets en garde. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a des brebis et des boucs, il y a du blé livré. Nous avons été prévenus. Maintenant, je vais aborder une autre question. Vous savez que c'est la sixième question. Où est le plaisir de Dieu? Je trouve que c'est beaucoup plus joyeux comme sujet. D'abord, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que aucun ne périsse et tous aient la vie éternelle. » Le plaisir de Dieu, c'est de sauver. Dans Jean 13, verset 1, Dieu mit le comble à son amour. Avant de mourir, il va laver les pieds de ses disciples. Le plaisir de Dieu, c'est de nous faire grandir, c'est de nous purifier, c'est de nous ennoblir de son amour et de sa sainteté. Où est le plaisir de Dieu? Hébreux 13, 14. Hébreux 13, 14. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, donc par le sang de Christ, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, en même temps que le sacrifice de louange, bien sûr, hein, qui est fait en vérité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà le plaisir de Dieu. Le cœur qui déborde. Mais que quelqu'un ne vienne pas me dire que le cœur déborde quand son porte-monnaie ne déborde pas pour les autres. Dans le royaume de Christ, c'est clair. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On vous reconnaîtra à ce signe. Donc, quand quelqu'un est un super radin et dit aimer les autres dans l'église, il y a un gros problème. Monsieur Ananias, Madame Séphira, ça existe. Mais il y a aussi des gens formidables qui savent consacrer leur bien à aider les autres. Et ça, c'est joyeux. Je trouve que c'est un service joyeux. On fait dans la paix. On sait que On a juste besoin, comme a dit Paul dans l'Épître à Timothée, la piété et le contentement me suffisent, car ils sont source d'un grand gain, c'est-à-dire la paix, l'union, la communion, dans le plaisir avec Dieu, le délice de l'âme. La piété et le contentement sont source d'un grand gain. Philippiens 2, verset 12. Oh, je trouve que c'est passionnant l'évangile. L'évangile, c'est la voie du bonheur. C'est l'oasis dans le désert. C'est la crème glacée quand il fait chaud. C'est l'eau avec de la menthe et des glaçons. À l'ombre sous un arbre quand il fait trop chaud dehors. C'est plus que ça, l'évangile. C'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est le plaisir de Dieu en moi de me donner du plaisir à moi. Et moi de lui rendre en disant merci, rendre grâce. Alors, donc Philippiens, parce que j'en suis. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est beau, mettez en œuvre votre salut, c'est beau, avec crainte et tremblement. Donc, crainte de quoi? De Dieu? Non! Crainte de péché! Tremblement, vous savez, on pêche souvent, hein? Faut être sur ses gardes, hein? Et, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez le thème du plaisir de Dieu? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est heureux, les anges sont heureux, les saints et saintes dans les cieux sont heureux quand un chrétien fait, se laisse faire par Dieu et fait la volonté du Seigneur. Je relis le verset. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, afin que vous soyez des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, portant la parole de vie. Dans le monde, on brille en apportant la parole de vie. On n'est pas nous-mêmes la lumière, on est le porte-lumière. Christophoros, Christophe, celui qui porte Christ. Nous portons Christ aux autres en apportant la parole. Alors, Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Je suis tout seul dans la maison, mes amis. Ma femme était partie aux courses avec les dames ukrainiennes. Je vais les rentrer, elle est partie travailler au jardin, parce qu'elle sait qu'elle va partir au moins 10-12 jours et en France, et elle veut que tout soit propre dans le jardin. Elle sait très bien qu'elle va rentrer, il faut recommencer, et ça c'est la vie. Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. De loin l'Éternel se montre à moi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te conserve ma bonté. Vous voyez l'expression de l'amour fidèle, de l'amour constant, sans ombre ni variation de Dieu. On a de la chance. Parce que s'il était comme nous, c'est foutu. De loin, l'Éternel se montre à moi dans la vie chrétienne, dans l'expérience spirituelle. Quand on la vit, on découvre ce que Dieu fait. On voit, on le sent, on le reconnaît, on sait profondément. On ne confond pas les vessies et les lanternes. Hein. On sait où est la place de Dieu quand on est réellement attaché au Seigneur. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Que c'est beau, chers amis. Que c'est beau. Jérémie 9, 23. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Donc, le comportement charnel, vous voyez, je sais tout, je connais ma Bible, etc., et puis on se casse la figure. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. J'ai jamais péché, moi. Ouh là 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 là. J'ai entendu un couple me dire, ils avaient 50 ans de mariage, on ne s'est jamais disputé. Ouh là 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 là. Je suis rentré chez moi, j'ai dit ça à ma femme, purée, je dis, comment ils osent dire ça? Comment ils osent dire ça? Le pire, c'est que c'est un pasteur et son épouse. Il y en a certainement un qui a ravalé, qui s'est soumis et qui n'a rien dit. Vous savez, dans les couples, la chair, elle parle beaucoup. Il y en a toujours un, au bout de 15 jours de mariage, parfois 2 heures, il a réussi à dominer l'autre jusqu'à la fin de sa vie. Et si l'autre l'aime, il se tait. Alors le premier qui se croit malin, il dit, on ne s'est jamais disputé, c'est formidable. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Devant Dieu, on ne pourra pas raconter des blagues. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De me connaître. Relation vivante avec Dieu. En vérité, évidemment. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Vous voyez, où est le plaisir de Dieu? Je viens de vous le lire. Où est le plaisir de Dieu? Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ah, quelle beauté dans ces versets. Quelle beauté dans ces versets. Quelle profondeur, les amis. Jérémie, chapitre 8, verset 5. Je vais commencer au verset 4. Jérémie, j'adore Jérémie, je vous le dis. Ésaïe aussi. Mais j'adore tous les prophètes, de toute façon, mais j'aime ce Jérémie, il a tellement souffert. Il est tellement sensible, il est tellement profond. Sa vie a été bouleversée tout le temps. Mais quel attachement au Seigneur, quelle fidélité. Alors, Jérémie 8, verset 4. Dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a été infidèle, on peut revenir. Si on a chuté, on peut se relever avec le Seigneur. C'est pourquoi. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Voilà ce qu'il faut éviter, les amis. On s'égare, oui. Mais que ce soit perpétuel, ça c'est plus grave. C'est qu'on y prend plaisir. C'est qu'on s'y plaît. C'est qu'on n'aime plus du tout Dieu. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Regardez bien ce que Dieu dit. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait parler. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont concernés, ils sont pris. Ils ont méprisé la parole de Dieu. De quelle sagesse se vantent-ils? Jérémie 8, verset 4 à 9. On peut transposer ça aussi dans la chrétienté, évidemment. Nous sommes faits de la même chair, des mêmes os. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 5. Je vais commencer un peu avant. 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Dieu dit ça au prophète Ésaïe. Élève ta voix comme une trompette. Une trompette, c'est pour l'appel à la repentance. Annonce à mon peuple ses péchés, ses iniquités. À tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la sainteté et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ben oui, que Dieu vienne à leur faveur. Hein? Faire leur volonté. Et ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ils disent ça à Dieu. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, les ouvriers. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? De nouveau le thème du plaisir de Dieu. C'est très important de pouvoir connaître Dieu. Ces mots-là nous révèlent qui est Dieu. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Ça veut dire, Dieu n'aime pas le rituel et les simulacres. Il recherche la vérité. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, de l'esclavage. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais errer, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, couvre-le. Lisez Matthieu 25, versets 31 à 46. Jésus a dit la même chose. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et diras, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. À propos de cela, chers amis, je pense au Pakistan, à nos frères au Pakistan, Saïd, qui a manqué un accident en moto, assez considérable, il n'a plus de moto, donc il ne peut plus aller chercher les courses, et les trois jeunes filles qui enseignent, qui vont chercher les aliments et tout ça. Mais ce qu'il y a, il a échappé belle, il aurait pu se tuer, et puis il n'y avait plus de pasteur là pour les 4-5 villages, pour l'école. Dieu l'a gardé. Je voudrais que vous rendiez grâce à Dieu de l'avoir gardé, de l'avoir sauvé. Jusqu'aujourd'hui, même des gestes menaçants, des pensées de ceux qui ne l'aiment pas. Priez pour que Satan ne ruine pas le ministère de cet homme, qu'il puisse continuer longtemps à servir. Pourquoi? Parce qu'il partage avec les autres. Il pourrait faire comme un tas d'autres chrétiens, sans doute ils sont partis en ville et qui vivent bourgeoisement, ben, autant qu'ils le peuvent. Alors, vous voyez, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, chers amis. La bénédiction est sur la personne consacrée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'épreuves. Parfois, les épreuves font grandir. L'épreuve n'est pas une malédiction. Mes chers amis, je vous demande de prier pour Saïd, pour d'autres serviteurs à travers le monde qui sont comme ça. Hein? Priez pour eux. Et pour Abdou, Aminata, leur fils Zacharie, ils vont retourner à Niamey, au Niger.